Vous êtes sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon. On est ravis de vous accueillir de nouveau pour l'épisode 2 avec Virginie, The Wisdom of a Unicorn. Je dis pas de bêtises.
C'est ça.
Alors si vous l'avez loupé, je vous remettrai tout en description l'épisode 1 où elle nous parlait de médiumnité, en particulier de tout ce qui était ange, guide, ancêtre, canal. Et aujourd'hui on l'accueille de nouveau, mais cette fois-ci pour parler d'elle, pour qu'elle nous parle de son parcours, qu'elle nous explique comment elle en est arrivée là aujourd'hui. Bienvenue Virginie.
Merci, bonjour.
On est ravis de te retrouver et du coup bah déjà peut-être pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 1, te réexpliquer rapidement qui tu es.
Alors moi je suis Virginie, j'ai toujours 36 ans mais 28 ans forever comme je viens de le dire. Je suis médium et ça je le dis que depuis un an et un mois maintenant, donc je suis médium, clairvoyante, clairaudiente, j'ai du clair ressenti et la clairsentience commence à se développer.
Comme dans le premier épisode, tu nous as déjà un petit peu dévoilé de certaines de tes expériences et de ton parcours de vie, on aurait envie que tu ailles un petit peu plus loin aujourd'hui et voilà, par exemple, tu pouvais partager ta première expérience ou ce qui a compté pour toi et ce qui a fait qu'aujourd'hui tu en es là.
J'en ai plein. En gros, en fait, on dit qu'on est médium, mais en fait, non. Enfin, moi, je ne sais pas si je suis née médium ou si je le suis devenue, mais d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours eu quelque chose d'assez particulier, en fait, avec les défunts, avec la mort. Tous les dimanches, on allait au cimetière avec ma mère et mon arrière-grand-père. Et moi, je me souviens, en fait, que je m'amusais entre les tombes et que je courais entre les tombes. J'imaginais, en fait, qu'à certains moments, il y avait des gens, en fait, à côté des tombes. Et en fait, je me demande avec le recul si je m'imaginais vraiment ces gens ou s'ils étaient vraiment là. Vraiment, le premier souvenir médiumnique, en fait, que j'ai, c'est que j'étais en CM1. Mon arrière-grand-père avait une phlébite, il était en clinique. Et je sors à 16h30 de l'école et je dis à ma mamie, Pépé, il est mort. Ma mamie, elle me dit, mais non, mais dis pas de bêtises. Et puis, on rentre à la maison et elle a un message sur le répondeur. Elle écoute le répondeur et là, on entend l'infirmière dire que mon arrière-grand-père est décédé. Quand t'es en CM1, tu dis, ah ouais, quand même, je suis forte. Mais t'en fais pas plus que ça et ma grand-mère l'a pas... Enfin, voilà, on n'a pas pris ça comme un ressenti, en fait. C'était plus un « je te l'avais dit ». Ensuite, j'ai eu d'autres expériences. À 17 ans, en fait, j'étais très stressée pour le baccalauréat. Du coup, je regardais beaucoup Charmed. Et puis, il y avait ce mouvement ésotérique autour de cette série. Et puis, je me suis dit, je vais commencer à m'intéresser à la magie blanche. Et puis, petit à petit, je me suis tournée vers la communication avec les anges gardiens. Sans pour autant pratiquer. Et puis, je me suis trouvé un petit livre, en fait, sur la communication avec l'ange gardien. Et puis, je faisais mes prières tous les soirs. Et un soir, en fait, en ouvrant les yeux, donc je dormais chez ma grand-mère, et en ouvrant les yeux, j'ai vu quelqu'un, en fait, regarder les livres de ma bibliothèque. Donc moi, on habitait un appartement, enfin, ma grand-mère habitait un appartement. Je dormais la porte ouverte. Je me suis dit, c'est mamie, en fait, elle vient regarder mes livres, parce qu'une fois de temps en temps, le soir... Voilà, je sais que ma grand-mère, quand elle a une idée, elle se lève, elle va regarder un livre. Puis en fait, j'ai cligné des yeux, et ce qui regardait, en fait, la personne en fait, qui regardait mes livres avait disparu. Je me suis dit, c'est mon ange gardien, en fait, que j'ai appelé et qui est venu. Avec le recul, je me demande si c'était vraiment mon ange gardien, mais bon. Et toujours pareil, dans la même mouvance, quelques jours après, en fait, je me suis réveillée un matin avec toujours cette impression d'avoir vu un buste blanc, toujours après avoir fait ses prières, hein. Un buste blanc, blond et sans visage, mais de l'avoir vu comme ça toute la nuit. Puis toujours à mes 17 ans, parce que oui, il s'en est passé des choses à mes 17 ans en fait, j'ai commencé à tirer le tarot de Marseille, et puis dans l'interprétation, la fille qui me donnait des cours, je lui ai dit « Fais attention, tu vas avoir un accident de voiture ». Puis elle revient 15 jours après, puis elle me dit « Je suis désolée, je suis pas venue la semaine dernière parce que ma belle-mère a été renversée par une voiture en sortant du bus ». Là, j'ai pris peur, parce que du coup, je me suis dit que j'avais pas donné le bon message à la bonne personne et que ça aurait pu peut-être être évité. Et du coup, j'ai tout bloqué. Et à ce moment-là, j'ai vraiment tout bloqué. J'ai tout arrêté. J'ai arrêté les prières aux anges, j'ai arrêté le tarot, j'ai vraiment tout arrêté. Je me suis dit, c'est tout, tu arrêtes. Enfin, ça m'a vraiment fait peur. J'ai arrêté jusqu'à à peu près 24 ans à voir. Par contre, ressentir, j'ai toujours ressenti parce que j'ai toujours eu peur du noir, même encore aujourd'hui. Quand je dors seule, je dors avec une toute petite lumière. Parce que j'ai pas peur du noir, j'ai peur de ce qu'il y a dans le noir, de ce que je ne vois pas, de ce que je ne peux pas ressentir, ce qu'on appelle en général le bas astral, en fait, hein, c'est toutes ces choses mauvaises que tu vois pas, que tu ressens. Voilà, j'ai toujours eu peur du noir. J'avais 24 ans, j'ai le frère donc, de mon ex petit copain, qui est décédé. Et moi, je gardais ses enfants chez lui, en fait, hein, pendant que tout le monde était à l'hôpital. Et il est décédé subitement. Et je gardais les enfants, donc j'étais sur le canapé, assis sur un fauteuil, mon filleul était sur le canapé. Et j'avais la porte vitrée de la cuisine sur la droite, dans laquelle il y avait le chien, qui était super excité, en fait, qui n'arrêtait pas de bouger tout le temps. C'était pour ça qu'on mettait dans la cuisine, justement. Et puis, à un moment donné, j'entends plus le chien. Je tourne ma tête, je me dis, c'est bizarre, le chien. Je tourne ma tête et là, je vois que le chien, en fait, est mis en boule sur des pieds, en fait, sur une grande ombre à forme humaine, en fait, mais noire. Et là, je vois que cette ombre, elle a un blouson, et je retourne la tête face à moi et je dis, bah non, il a pas mis son blouson, il est en face de moi, son blouson. Et juste après, j'ai eu ce, ah bah, il est venu dire au revoir à ses enfants. Et je regarde l'heure, je retourne ma tête, je vois plus rien. Et quand j'ai demandé à quelle heure il était décédé, en fait, eh ben, il est décédé à 21h35, l'heure à laquelle j'ai vu en fait, cette grande ombre blanche. Et là, à partir de là, j'ai commencé à me dire que petit à petit, en fait, j'avais ce don de voir, mais j'ai vécu avec, sans pour autant chercher, en fait. J'ai jamais... Voilà, j'ai été très perturbée par ce décès. Je sais qu'il est venu me dire dans mon sommeil qu'il allait bien, parce que ça n'allait pas. Mais voilà. Après, moi, j'ai vécu ma vie de façon très normale jusqu'à 2013, en fait. Voilà, en sachant que oui, j'avais des ressentis, je vivais avec, mais j'avais pas envie de les développer.
Merci de partager tous ces moments qui sont aussi de ta vie personnelle, mais bon. Qui permettent de comprendre un petit peu ces étapes de vie où je pense que ceux ou celles qui ont pu avoir des ressentis, parfois, en effet, on les bloque. Pour se protéger parce que ça peut faire peur et puis le but justement de ce podcast c'est de montrer que si on appréhende bien les choses il n'y a pas à en avoir peur. et justement c'est quoi l'étape d'après, c'est une fois qu'on a pris conscience de ça, est-ce qu'on a le choix déjà, moi c'est ça souvent la question des gens, est-ce qu'on peut se dire oui je bloque définitivement et c'est mon choix et je veux pas vivre avec ça. Ou est-ce qu'on n'a pas le choix de l'ouvrir, entre guillemets ?
Si on a le choix, t'as toujours le choix, en fait. T'as le choix de voir, t'as le choix de pas voir, t'as le choix d'entendre, de pas entendre, tu peux tout bloquer. Moi, en fait, tout s'est débloqué au moment du décès de ma mère. Parce qu'on dit que ça a été un grand choc, ma maman est décédée d'un infarctus, et à 800 km, à 800 km, quand on me l'a annoncé, j'y ai pas cru, tout s'est effondré sous moi, et... pour moi, j'ai vraiment tout perdu. C'était vraiment triste à en crever, en fait, comme je le dis. Et tout s'est ouvert à ce moment-là. Et on dit toujours qu'un grand choc psychologique, en fait, peut t'ouvrir, en fait, ta médiumnité. Moi, derrière, du coup, j'ai commencé à voir, à voir encore plus, en fait, à avoir encore plus de ressentis, à entendre. Du coup, je suis allée voir une psy parce que je pensais que je perdais pied par rapport à ce décès. Heureusement, je suis tombée sur une psy qui était super ouverte, une psychologue, en fait, qui était très, très ouverte et qui m'a dit que non, les défunts, en fait, pouvaient nous passer des petits messages, en fait, hein, de l'au-delà. Donc, moi, ça m'a confortée dans ça. En fait, c'est ça. Je pense que c'est toujours là, en fait, parce que l'invisible est toujours là. Le monde invisible ne va pas s'arrêter du jour au lendemain de vouloir communiquer avec toi. Mais c'est toi, en fait, qui te dis non, je ne veux pas voir, et tu te mets une barrière. Et moi, ma barrière, elle a été mise jusqu'à mes 30 ans, en fait, c'est ça. C'est jusqu'à mes 30 ans, l'année du décès de ma mère. Moi, personnellement, je me suis cherchée, j'ai essayé de comprendre, je me suis formée, etc. Et j'ai accepté il y a un an, donc j'ai dit que j'ai fait mon petit coming out ésotérique en créant mon blog et en parlant vraiment de façon plus ouverte, en prenant confiance en fait sur ça. Et depuis un an, tout en fait se débloque encore plus en fait. C'est une question d'acceptation, donc ouais, t'as le choix. Soit tu refuses en fait, parce que c'est ton propre choix en fait, tu peux ne pas accepter de voir, d'entendre. Moi je connais une médium qui a demandé à ne pas voir les morts dans l'état dans lequel ils sont décédés. Parce qu'ils se montraient à elles dans l'état dans lequel ils étaient décédés. Et il y a des médiums qui ne veulent pas voir. Je vois par exemple la personne qui m'a formée en tant que passeur d'âme ne veut pas voir.
Okay.
Elle refuse de les entendre. Elle refuse de voir. Et aussi elle refuse d'être touchée. Donc ça après c'est différent, mais elle refuse, elle refuse de voir.
Ok.
Je pense que tout est dans le mental. C'est ça en fait. C'est dans ton mental. C'est une question de volonté, d'accueillir ou pas, et dans ton mental. C'est pas parce que toi tu veux pas que l'entité elle va s'arrêter de vouloir communiquer avec toi. Je veux pas le voir.
Ouais. Ok. Et par rapport à cette période, si tu es d'accord, bien entendu, hein, tu as la... tu dis ce que tu as envie de partager. Cette période de compréhension que tu as eue, tu dis voilà, j'ai cherché à comprendre, je me suis formée. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as compris alors et, ou pas d'ailleurs?
Et en fait, j'ai plein de choses. C'est-à-dire que ma mère est décédée le 6 juillet 2013. Et en fait, ça va à partir de là. Tout s'est déclenché. Moi, j'étais triste à en crever. Et quand on était au funérarium, je suis restée toute seule avec elle. Et à un moment donné, je lui ai dit, parce que bah voilà, tu parles au corps du défunt quand t'es triste, parce que c'est normal de parler à un défunt quand t'es triste. Je lui ai dit, on m'a prévenu, je sais même plus son nom, c'était la personne, c'était son amoureux du moment en fait. Et à ce moment-là, en fait, j'ai vu la porte du funérarium, donc la porte de service qu'on pouvait ouvrir qu'avec un badge, s'ouvrir. Mais vraiment. Donc, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis restée calme. Ah oui, et moi, en fait, quand je vois un défunt, c'est très calme, en fait. C'est comme ça que je sais que c'est un défunt, parce que je suis très calme. C'est-à-dire que mon ex-beau-frère, en fait, qui est décédé, j'étais très calme. C'était, ah oh, bah oui, c'est ça. Tu sais, c'est, ah oh, bah oui, bah, c'est comme ça. C'est, je vois un mort, mais tout va bien. Et vraiment, ça veut dire que c'est bienveillant. Mais du coup, je me suis déplacée, j'ai regardé dans le couloir pour voir s'il y avait quelqu'un qui passait à ce moment-là. Parce que j'aime bien être aussi terre à terre. Personne. Bon. Du coup, à ce moment-là, je me retourne vers ma mère et je lui dis d'accord. Et là, je vois que la porte se referme. Et puis, au moment où la porte arrive contre le mur, une autre personne rentre, mais du coup, vers la porte normale, enfin, à partir de la porte normale, elle rentre là et je la regarde et je lui dis, je fais, il vient de se passer un truc, mais je suis pas prête à t'en parler, je t'en parlerai plus tard. À partir de là, j'ai su que ma mère essayait de communiquer avec moi. Bizarrement, je le savais. Ensuite, il y a eu au moment de son incinération, toutes les bougies se sont éteintes. D'un coup, il y a eu un grand courant d'air, parce qu'on était au funérarium, mais tout était, enfin, les portes étaient fermées. Il y a eu un grand courant d'air, les bougies se sont éteintes. Avec ma tante qui n'y croit pas, en fait, on s'est regardé, on a souri, on savait quand même que ma mère était là. Et la musique aussi, parce qu'on a mis une certaine musique, et juste une seule musique en fait, et la musique à un moment donné a oscillé. Enfin, il n'y avait pas de raison puisque c'était une clé USB. Donc, il n'y a pas. Enfin, voilà, il n'y avait pas de raison. Et puis, une semaine après. Non, c'est même pas une semaine après. C'est. Oui, si, on a incinéré ma mère le mercredi. Et le dimanche soir, en fait, donc, on a remonté les cendres. Enfin, voilà, on les a remontées chez nous. Et puis, je m'endors. Et à ce moment-là, en fait, je flippe sa race. Parce que j'ai des fourmis dans les pieds. On va se dire, bah ouais, mais t'as des fourmis dans les pieds, t'as marché toute la journée, enfin, t'as fait de la route et tout. Bah non, parce qu'en fait, le soir même, je suis allée au feu d'artifice, parce que c'était le feu d'artifice du 13 juillet. J'avais marché, pas de raison d'avoir des fourmis dans les pieds. Je me mets dans mon lit et j'ai des fourmis dans les pieds. Et là, je remonte ma couette sous ma tête, parce que ma mère a toujours dit que lorsqu'elle serait décédée, elle reviendrait pour me chatouiller les pieds. Et j'ai eu des chatouillis et ça... J'ai toujours eu ce doute de savoir, et après je n'ai plus du tout ce doute. Mais voilà. Donc là, à ce moment-là, il s'est passé ça. Et le lendemain matin, en fait, je suis descendue. Et dans mon salon, enfin voilà, je descends. Je tourne la tête. Et là, dans le salon, je vois ma mère assise. Mais là, je la vois comme je te vois. Assise sur le canapé, en train d'attendre, en fait. Les mains sur les genoux, en train d'attendre. Il s'est passé quoi? Un quart de seconde, parce que j'ai cligné des yeux, elle n'était plus là. Mais à ce moment-là, je savais que ma mère était là. Ensuite, moi, ma mère, je l'ai vue deux fois dans des rêves. Un rêve où il fallait que je lui dise qu'elle était morte. Et un autre rêve où je rêvais qu'on était cambriolés. Et que j'appelais la personne qui descendait devant moi. Et la personne se retournait. Et là, je voyais le visage de ma mère. Je suis allée voir une psy. À ce moment-là, parce que je me suis demandé, en fait, si je perds des papiers. Ce qui est naturel, en fait, de dire, est-ce que je perds pied? Est-ce que je me rattache à ma mère? Est-ce qu'elle me manque tellement que je commençais à devenir folle? Et donc, bon, bah, la psychologue m'a dit que non, en fait, il y avait des messages de l'au-delà. Et puis, voilà, puis après, ça a été entendre mon nom dans mes escaliers. toujours pendant toujours à cette période, hein, ressentir des entités chez moi que je n'avais pas ressenties avant, mais qui étaient bien là. Et puis un jour, je suis allée voir une médium parce que ma mère est décédée d'un infarctus. Le médecin qui s'occupait d'elle, pardon, son néphrologue, m'a dit qu'ils avaient tenté de la réanimer pendant 45 minutes. Et 45 minutes, c'est long. Et moi, en fait, le médecin était incapable de me dire si ma mère s'était réveillée à ce moment-là. Si, pendant une demi-seconde, en fait, elle avait repris conscience, elle était consciente qu'elle mourait. Et moi, ça m'a empêchée de faire mon deuil pendant 3 ans. Et 3 ans après, du coup, je suis allée voir une médium pour lui demander, en fait, si ma mère s'était réveillée à ce moment-là. Et là, cette médium, à ce moment-là, bon, elle a répondu à ma question, donc ma mère, non, ne s'est pas réveillée à ce moment-là. Et cette médium m'a dit que moi-même j'étais médium, que depuis que je suis petite il m'arrive plein de choses et que ça va évoluer du coup, et que c'était normal en fait tout ce qui m'arrivait parce que ma mère se plaçait comme mon guide et devait, sa mission pour le moment à ma mère était de me montrer le chemin de l'ouverture. Et du coup je me suis hyper interrogée sur tout ça. Après moi je suis plus allée voir de médium du tout, hein. C'était pas le but non plus. Donc derrière, je me suis documentée, j'ai lu, j'ai fait une formation, j'ai fait une première formation à la médiumnité du coup, juste l'année dernière. Donc t'imagines le cheminement, parce que ma mère, ça va bientôt faire 6 ans qu'elle est décédée. Du coup, le cheminement tout seul, en fait, où tu te poses des questions et t'accueilles juste ce qui arrive et t'essaies d'analyser, en fait, tout ce qui arrive, parce que moi, c'est ce que j'ai fait, en fait, pendant 5 ans. J'ai juste analysé et accueilli ce qui m'arrivait, essayé de communiquer à ma façon, mettre en place des protocoles avec les entités chez moi, genre non, on ne me pousse pas dans les escaliers, ou mais qui es-tu, gentille personne sous mon lit, tu es bien gentille de me caresser le pied, enfin, un peu tout ça en fait, hein. Donc en fait, je me suis rendu compte que pendant 8 ans, parce que j'étais chez moi là-bas pendant 8 ans, donc que pendant 8 ans, je vivais avec des entités en colocation. Et ça, c'est merveilleux. Et l'année dernière, en fait, j'ai accepté. Le jour de mes 35 ans, je ne sais pas pourquoi. Si, parce que la semaine d'avant, j'avais vu ma mère, en fait. Et là, je savais que ma mère, c'était la dernière fois que je la voyais dans mes rêves. J'ai vu ma mère, en fait, sur le seuil de ma chambre, en haut de mes escaliers, sur le seuil de ma chambre, habillée d'un... La classe, la grande classe, attention, hein, d'une veste en sequin, d'une coupe à la Jackson 5. En fait, elle avait 19 ans, en fait, ma mère. C'était son... Comment dire ? C'était le visage de quand elle avait 19 ans. Une coupe à la Jackson 5, parce que ma mère avait les cheveux crépus, mais finissait dans sa coupe une sorte d'encre, en fait, de bateau. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, je n'ai jamais cherché la signification, mais il faudrait que je le fasse. Et donc, la veste en sequin brillait, et ma mère, en fait, était entourée d'une grande lumière. Et elle me parlait, mais je ne l'ai pas entendue. Et à ce moment-là, par contre, j'ai su que c'était la dernière fois que je voyais ma mère. Que sa mission était terminée, peut-être, je ne sais pas, mais c'était la dernière fois que je la voyais physiquement. Que le lien allait être différent. Et donc moi, derrière, suite à ça, ben, je me suis dit, bon, tu vas quand même faire une formation, ma fille, parce que... Enfin non, ça je me suis dit bien après, désolée, je reviens un petit peu dans la chronologie. Mais donc, une semaine avant mes 35 ans, il s'est passé ça. Et après, j'ai eu 35 ans, c'était un mercredi, je me suis pris la cuite du siècle. Et le lendemain matin, je me suis réveillée le jeudi matin en me disant, tu vas faire un blog. Tu vas dire aux gens ce que c'est d'être médium, tu vas leur montrer ce que c'est, et tu vas essayer de comprendre ce qui t'arrive. Et du coup, de là, j'ai créé The Wisdom of the Unicorn. À partir de là, j'ai fait une formation, un atelier, en fait, c'est plus un atelier, découvrir la médiumnité, avec lequel je suis restée vraiment sur ma faim, parce que c'était pas, c'était beaucoup de théorie et très peu de pratique. On parlait d'Alan Kardec, etc. Et du coup, c'est très très bien, hein, mais moi, c'était pas vraiment ce que je recherchais. Au moins, ça a posé la base quand même, parce qu'il faut connaître la base. Ensuite, j'ai fait une formation passeur d'âme avec Jocelyne Soyer. Et parce que j'avais lu son livre Le phare dans la nuit qui m'avait beaucoup touchée 2 ans auparavant. Et je m'étais dit que moi aussi, en fait, vu tout ce qu'elle vivait, ben, moi j'étais comme elle, en fait j'étais passeur d'âme, donc j'ai fait une formation donc, avec elle. Et puis derrière, j'ai fait une formation un atelier formation médiumnité au château de Fougeray, en fait, l'année dernière, où ben, là tout s'est vraiment ouvert. Mais tout s'est ouvert en fait. C'est dingue. Je Peut-être les bonnes rencontres en fait, mais effectivement là-bas tout s'est ouvert. Et bah voilà mon parcours en fait. Désolée, j'ai parlé beaucoup, mais c'est ça en fait. C'est ouf, c'est que tu pars d'un décès et puis tu te dis que tu es guidée par des gens et qu'il y a des gens à côté de toi. Moi j'ai vécu des choses de ouf. Hein. Par exemple, 2 ans après le décès de ma mère, je suis allée mettre un cierge à l'église parce que j'étais toujours pas allée à l'église. Eh ben, il m'a fallu 3 quarts d'heure pour en sortir. J'ai dû appeler quelqu'un pour venir me chercher parce que je me suis mise à pleurer pendant 45 minutes pleines, assise sur une chaise dans une église vide. Et à ce moment-là, en fait, j'ai senti que quelqu'un était assis à côté de moi et j'avais qu'une envie, c'était de poser ma tête, en fait. Tu sais, c'est, comment dire? C'est vraiment, c'est inconsciemment, j'avais envie de poser ma tête, c'est comme si quelqu'un était là en train de me consoler. Et l'année dernière, l'été dernier, j'ai réécouté la chanson qu'on avait mise pour l'incinération de ma mère, c'était Le Passage en fait, de Francis Lalanne. Mais c'était sa chanson préférée en fait. Et comme le décès a été tellement subi, que je me suis vraiment souvenue de choses basiques en fait. Et Le Passage, je sais que c'est sa chanson préférée, et j'avais jamais écouté les paroles en fait. Mais quand t'écoutes les paroles, effectivement, c'est peut-être pas par hasard en fait que cette chanson m'est revenue. Et donc l'année dernière, j'ai réécouté donc cette chanson, et là, je me suis mise à pleurer devant mon écran, ce qui est normal en fait, hein. Mais à ce moment-là, j'ai eu un très grand froid, et j'ai senti en fait que quelqu'un était debout derrière moi et mettait sa main sur mon épaule. Et là, à ce moment-là, enfin là par contre, là, j'ai su que c'était ma mère. Que je ne voyais plus dans mes rêves, mais que, comment dire, mais que je pouvais ressentir à n'importe quel moment. Voilà, enfin voilà comment ça s'est développé. En gros, bah, ça s'est développé de façon normale, en fait, pendant 5 ans, jusqu'à ce que je l'accepte réellement. Et là, depuis un an, je vis des choses de ouf, en fait. Enfin, je rencontre des gens qui m'aident à me développer, des discussions, des lieux, des formations qui n'en sont pas, parce que tu peux pas te former à être médium, puisque on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait. C'est juste des techniques, en fait, pour ouvrir ton intuition, pour développer ta médiumnité. Passeur d'âme, c'est pas une formation non plus, c'est des techniques pour passer les âmes. Mais on appelle ça formation quand même, parce que ça dure une journée et que bah, t'es assis et qu'on t'explique des choses. Depuis là, bah, bientôt 6 ans, c'est une super ouverture, quoi. Donc voilà, madame, comment ça marche. C'est beaucoup, mais au quotidien, c'est très dur.
Non, ouais, merci pour ce partage de parcours. Je pense que ça va faire écho à beaucoup de personnes. Et je me posais la question par rapport à tout ce que tu as vécu. Il y a forcément eu des moments de doute. Tu as eu des moments aussi où tu es même allé voir une psy en te disant bah, finalement de faire la part des choses, de ce qui est vrai ou pas. Et du coup, d'essayer de retrouver un équilibre, j'imagine. Co comment on passe ces moments-là, comment on fait? Parce que je pense qu'on est tous à vivre ces doutes et à tenter de trouver cet équilibre. Et j'ai l'impression que maintenant, si tu ne l'as pas trouvé, en tout cas, t'en es pas loin, quoi.
Ah, ben, en fait, c'est simple. Ma mère est décédée. Je suis allée faire un mois après une retraite spirituelle. Une retraite spirituelle où je ne parlais pas. Donc, ça, c'était chouette. J'ai eu beaucoup de doutes déjà. J'ai eu énormément de doutes. Donc, déjà, savoir si j'étais pas folle. J'ai encore aussi aujourd'hui des. Je n'ai pas appelé des problèmes de confiance en moi, mais c'est juste que quand je fais une guidance, par exemple, j'ai peur de ne pas viser juste. Alors que, y a même pas à viser juste ou pas, en fait. Hein. Mais c'est juste. Je pense que c'est la société en fait qui veut que tout soit parfait et qu'il fasse les choses correctement. Donc du coup c'est cette peur en fait. Il faut que je m'en libère encore un petit peu, mais voilà. Mais j'ai des doutes aussi sur ce que t'entends parce que quand t'entends des voix, t'es en train de t'endormir et que t'entends des voix en demi-sommeil. Ah oui, j'entends des voix aussi quand je m'endors, c'est merveilleux. Tu te demandes en fait si c'est toi qui dans ta journée a eu tellement de choses qui t'ont fait chier que ben du coup ton cerveau il déconnecte et du coup tu te parles à toi-même, ou alors c'est vraiment des entités. Ça, moi j'ai des grands moments de doute en fait quand j'entends des défunts, quand j'entends des défunts, quand on me dit quand je canalise des phrases, des conversations, bah, je me demande à chaque fois si c'est pas moi en fait dans ma tête, si c'est pas une voix dans ma tête en fait qui me le. Ben voilà, enfin, si c'est pas une voix dans ma tête, si c'est pas mon inconscient, si. Et en fait, non, parce que c'est pas ma voix, en fait, je réalise tout de suite que c'est pas ma voix. C'est pas ma voix et ça ne me donne pas d'ordre. Donc du coup, c'est pas moi. Comment j'ai fait pour enlever mes doutes? C'est simple, j'ai rencontré des gens. Je me suis ouverte en fait. Je suis allée voir une médium qui m'a rassurée au début. Je suis allée voir... Après c'est con, hein, mais je suis allée juste me remettre mes énergies en place. Je cherchais rien du tout. Et la nénette m'a passé un message de ma maman. Pareil, je suis allée à une conférence de Jocelyne Soyer. Et la deuxième partie, c'était du contact défunt. Repareil, j'avais un message de ma maman. Du coup, ces personnes, après, bah, tu leur parles, en fait. Pareil, Jocelyne Soyer, je la connaissais pas. J'ai juste lu son livre. Et après, je me dis, bah, tiens, ce serait sympa quand même que je l'appelle, cette dame. Et du coup, j'ai envoyé un petit mail et on s'est rencontrés. Par exemple, toi et moi, on discute de ta pratique, de ce que tu fais. Julie, la médium qui était médium au château de Fougeray aussi, bah, je garde contact avec elle. Et en fait, je trouve mon équilibre en fait, dans les rencontres, les discours et les questions que je pose aux gens que je rencontre. Et pour ça, donc que ce soit dans ma vie quotidienne, parce que là je suis dans un environnement aujourd'hui où ça transpire la spiritualité au quotidien ici. Mais donc du coup là mon équilibre depuis 3 mois je suis vraiment en train de le trouver. Mais avant c'était sur Instagram. Tu vois une nénette qui est un peu dans la même mouvance que toi, tu lui envoies un petit message et si elle te répond, ben c'est chouette, du coup tu peux commencer à échanger. Donc franchement, les doutes, c'est dans l'échange qu'ils s'en vont. Tu gagnes de l'assurance dans l'échange et tu gagnes de l'assurance vraiment en discutant avec d'autres personnes comme toi. Parce que moi, je me suis dit, mais c'est pas possible que je sois folle, parce que dans ces cas-là, si moi je suis folle, tous les gens à qui je parle et qui me parlent de spiritualité, de médiumnité, ils entendent, etc., dans ces cas-là, tous ces gens que je rencontre et qui sont normaux pour moi sont aussi fous.
Ouais, je trouve que c'est intéressant d'ailleurs de se poser la question de qu'est-ce qui est la normalité et qu'est-ce qui est la folie. Parce que finalement, c'est qu'une question de point de vue aussi.
Non, donc, si les fous qu'on enfermait étaient vraiment fous, et si c'était pas nous les fous qui voulions les enfermer parce qu'ils étaient normaux.
Ouais, tu vois, c'est ça. Je suis assez d'accord. Il y a juste une question de point de vue. Donc, ça, déjà, c'est intéressant. Et je pense qu'en effet, de s'entourer, je pense que c'est indispensable, comme tu dis, que ce soit virtuellement ou réellement, si je peux dire. Je pense que c'est vraiment indispensable dans ce genre de parcours de vie parce que tu te nourris des expériences des autres aussi et ça te permet de mieux comprendre tes propres expériences et ça peut faire sens, quoi.
C'est ça, il faut surtout pas rester seul, en fait. Parce qu'il y a de quoi vraiment de devenir fou pour de vrai et d'être enfermé. Je suis certaine qu'il y a plein de médiums qui s'ignorent, qui sont enfermés dans des services psychiatriques.
Ah, je me suis jamais posé la question, mais ce serait à creuser, ouais, c'est intéressant, ouais.
C'est à creuser, en fait, hein, des gens qui entendent des voix, qui voient des gens, et qui, bah, pour eux, ont une certaine notion de la normalité, et qui, du coup, sont enfermés, et peut-être pas, en fait.
Ouais, c'est vrai.
Quand je vois quelqu'un dans la rue qui parle tout seul, ben, je me demande s'il est vraiment fou, ou si, peut-être, il a perdu pied.
Ouais.
Est-ce qu'il y a une entité à côté de lui, et...
Ouais.
Je me suis jamais encore concentrée, tu sais, pour regarder s'il y a vraiment une entité. Mais je suis certaine que ce serait très drôle, enfin drôle entre guillemets, de se dire que cette personne en fait ne parle pas toute seule, mais parle vraiment avec elle.
Et je pense aussi que le fait d'être entourée, ça, parce que pendant un moment, je sais plus quand tu as dit, quand tu disais, j'ai vérifié quand même à la porte s'il y avait quelqu'un ou pas, parce que j'essaye de rester terre à terre. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que, avec Annick, c'est des questions qu'on se pose beaucoup. En plus, Annick, il fait des voyages chamaniques, donc il rencontre des animaux et des esprits, il discute avec eux, dans d'autres milieux, d'autres mondes en plus. Donc, il me dit, moi, j'ai peur de perdre pied, comme tu disais, à un moment donné, et de perdre le sens de la réalité. Et le s'ancrer dans la réalité, c'est important aussi, enfin dans la réalité, dans une autre forme de réalité qui est notre quotidien, réussir à s'ancrer, je pense que c'est important. Et les personnes de son entourage peuvent être cet ancrage, en fait.
C'est ça. Et en fait, c'est super important de toujours de garder cet esprit critique. Par exemple, tu peux entendre, si tu entends un bruit, bah, c'est peut-être juste le plancher qui craque, en fait. Toujours ce côté rationnel à garder, toujours d'abord chercher une explication rationnelle. La limite, chez moi, c'est les lumières, que les lumières scintillent et que les objets bougent. Si je vois que des lumières scintillent ou que des objets bougent, c'est que tu t'en vas.
Okay.
Tu t'en vas tout de suite et tu reviens plus tard. C'est-à-dire que c'est pour, avec un plan, de la sauge, tout ce que tu veux. Mais pour moi, ma limite, c'est ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'entité a tellement d'énergie qu'elle arrive à déplacer des objets et à faire vaciller la lumière. Donc, c'est très mauvais. C'est ce qu'on appelle, en fait, en gros, un poltergeist. En fait, c'est quelque chose qui a beaucoup d'énergie. Et à ce moment-là, il faut se barrer. Et tu reviens plus tard avec 3 kilos de sauge et t'en fumes. Mais moi, c'était ma limite. Recommence 15 fois ce que tu fais. Même si c'est 15 fois, mais pour savoir si c'est une entité, si c'est un phénomène paranormal ou si c'est juste normal. Par exemple, tu vas tourner ta tête et tu vas voir une ombre. Je porte des lunettes, donc je tourne la tête, je vois une ombre. Ben, je vais garder la même position, je vais retourner la tête parce que c'est le soleil. Il y a plein de petites choses comme ça, et il faut, quand tu as un doute, refais exactement le même geste dans la même condition. C'est la nuit du chasseur paranormal dans leur dernier épisode, en fait. Elles ont eu très peur parce qu'elles ont vu, en fait, quelque chose arriver sur elles, une sorte de grande lumière arriver sur elles. Les filles sont sorties, en fait. Certaines filles sont sorties, ont pris leur voiture et elles ont pris le chemin pour voir si c'était pas, en fait, les phares qu'elles auraient vus. Et cet exemple, il est très bien parce qu'il faut toujours garder cet esprit critique, en fait. Toujours. C'est ton seul ancrage à toi, et ton entourage, c'est très bien. Et que ton entourage n'y croit pas, c'est parfait. Ne leur demande pas de croire en ce que tu crois ou de voir ce que tu vois, c'est pas grave. Mais que eux aient le côté critique, c'est très bien parce que du coup, justement, toi, ça te remet en question. Inconsciemment, tu te dis, bon, alors, c'est vrai ce que j'ai vu ou c'est pas vrai? Et ça, c'est génial, en fait, d'avoir des gens qui, ils sont hermétiques à tout ça.
Et il y a aussi la question de la limite que tu te mets. Comment expliquer de contact avec tout ça par jour? C'est-à-dire que comment tu gères ça, dans le sens où, à un moment donné, il faut bien que tu vives ta vie aussi, j'imagine. Ta vie personnelle, intime, ce que tu veux, comment tu poses ta limite et est-ce que tu peux la poser et, pour garder cet ancrage, comme on disait, et vivre aussi ta vie ici, quoi.
Alors, je sais que certaines personnes se posent des limites. Par exemple, je sais que quand ils vont se coucher, il y a certains médiums qui disent « Ah ben non, ce soir, on ne parle pas, je n'ai pas très envie de parler, on se voit demain. » Moi, perso, je n'ai pas de limite.
Okay.
C'est bête, hein, mais j'en ai pas. Je sais que je devrais m'en mettre un des limites, hein. Mais parce que, par exemple, quand c'est la nuit, quand tu dors et que t'as une entité que tu te réveilles et que t'as une entité à côté de toi, bah c'est bon, quoi. Tu dis, j'ai pas un bureau ouvert 24 heures sur 24, en fait. Mais ça va que pour les humains. Va dire à une entité, alors, excusez-moi, mais alors on va prendre rendez-vous demain matin à 8h, parce que là je vais me coucher. Il n'y a pas de notion de temps de l'autre côté, donc ils vont pas comprendre, en fait. Donc si t'as un message à passer, il faut le passer. Donc c'est vrai que c'est chiant au quotidien, vraiment. Enfin, mais il y a des fois, je bloque vraiment. Par exemple, moi j'ai un travail alimentaire. À mon travail alimentaire, je me mets des barrières, mais c'est un carton que je mets autour de moi. Parce que on est 400, parce que il y a des gens, parce qu'ils sont tous avec leurs défunts, parce que des fois tu vas dans les toilettes et tu croises une petite fille et tu fais « Oh, salut, qu'est-ce que tu fais là ?» Mais elle est pas vivante, cette petite fille. Du coup, tu... voilà, ça m'est arrivé, du coup maintenant je me protège. Il y a des moments où je me protège vraiment, par exemple au travail. Mais par contre, dans ma vie, quand je suis en dehors, non, là, je sais que je devrais faire une petite bulle de protection et je me la fais. Mais en même temps, j'ai envie d'accueillir ce qui vient parce que je suis curieuse de tout ce qui arrive. Et j'ai envie d'accueillir et puis de me dire, bon, et de me faire ma propre expérience avec ce que j'accueille. Et de me dire, ça, c'était bien, ça, c'était pas bien, la prochaine fois, ce sera pas bien. Et voilà. Les médiums qui disent, moi, en fait, je me mets des barrières et entre telle heure, on ne parle pas. Je ne sais pas comment elle fait. Dans leur mental. Non, mais je critique pas, mais c'est juste que je me dis que dans leur mental,
oui, oui.
Barrière de telle heure à telle heure, et c'est super en fait. Hein. Mais moi j'aimerais bien le faire. Mais en même temps, j'aimerais, et il y a une part d'inconscient de moi qui veut pas parce qu'elle veut tellement accueillir d'un coup.
Ouais.
Et du coup, là, moi j'ai la chance d'être dans un environnement où au quotidien je peux en parler, donc du coup, ce qui arrive pour moi arrive peut-être pas à l'autre, mais l'autre est prêt à l'entendre et vice versa. Je vis avec. Et par contre, j'en prends une grande dérision. Et je sais pas pourquoi, mais je le prends de façon normale, en fait. C'est pour moi, les morts, on vit avec, parce que, enfin, On vit pas avec nos morts, on vit avec le monde invisible, en fait. Pour moi, le monde du visible et le monde invisible sont deux mondes, en fait, qui vivent l'un à côté des autres, sauf qu'il y a le monde invisible est conscient du monde visible, mais le monde visible n'est pas encore conscient du monde invisible. Et du coup, on vit tous ensemble au quotidien, ben, ça va, c'est joie et bonne humeur, en fait.
En tout cas, oui, je confirme que tu mets beaucoup d'humour dans tout ce que tu fais, dans les guidances aussi, pour en avoir vécu une. T'apportes de la légèreté et je trouve que ça manque un petit peu aussi, peut-être dans ce milieu-là des médiums, et que ça fait du bien aussi de se dire, ben, pour une forme d'acceptation, ben oui, en effet, ça existe, c'est là, et tu choisis d'interagir ou pas avec, mais ça ne veut pas dire que c'est dramatique et qu'on doit tous mal le vivre, quoi. Merci beaucoup, en tout cas. Tu as parlé de différentes choses. Là, ça va être un petit peu de teasing pour l'épisode 3, puisque vous avez cru comprendre que Virginie fait du passage d'âme, entre autres, de la guidance. Mais justement, elle vous expliquera tout ça dans l'épisode 3, de ce qu'elle fait, comment elle le fait, comment ça se passe. En attendant, est-ce que tu veux conclure par quelque chose, Virginie ?
Jamais seule.
Ok, on va réfléchir à ces paroles avec humour, s'il vous plaît. Hein, on n'est jamais seul, avec humour.
J'imagine, tu sais, genre, je viens de dire cette phrase et tout le monde regarde.
Oui, c'est ça. Ah. Encore un grand merci pour ce moment passé avec toi. Et puis à très vite sur Mystic Moon.
Ainsi soit-il. C'était Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous.